on peut avoir tendance à dire, ben nous, on est en fait un peu plus quand même chrétiens que les autres. Et je crois que tout cela nous invite finalement à nous arrêter pour creuser ce que ça signifie. C'est quoi, ça veut dire quoi ? Être un disciple et suivre Jésus, finalement. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est vrai que le terme contient une invitation à aller plus loin dans la foi. Et au risque d'être un peu provocateur, je dirais qu'on peut croire en Dieu et croire en Jésus sans être un disciple. Un disciple, c'est quelqu'un qui suit Jésus-Christ. Donc c'est quelqu'un qui fait un pas. Et dans les paroles qu'on a chantées, notamment dans « Jésus, je te suivrai », il y a un engagement très fort. « Je t'aimerai plus que ma vie, je servirai malgré le prix. » Enfin, c'est plus qu'une foi qui fait du bien, et c'est tout. Et ça peut faire peur. Et la question qui nous est renvoyée, est-ce que nous suivons Jésus-Christ ? On peut la recevoir comme quelque chose de culpabilisant. Ouh là là, il te manque quelque chose. Et c'est là où nous arrivons aux évangiles. Pour comprendre ce que ça signifie, ben revenons à ce que Matthieu raconte. Matthieu donc, qui rapporte cette dernière parole de Jésus, et cette parole qui s'adresse à des gens qui sont devenus disciples et que Jésus a appelés. Revenons au moment de l'appel. Et on va voir qu'il y a quelque chose de beau, de doux et de simple, d'exigeant, mais qui est à notre niveau. Et c'est pour ça que je vous invite à méditer ce matin Matthieu 4, l'appel des premiers disciples. Nous sommes au tout début donc, du ministère de Jésus. Ce sont des passages qu'on a médités pendant le carême avant Pâques. Jésus a reçu le baptême. Il vient de vivre 40 jours de tentation dans le désert. Il commence ensuite à proclamer « Changez radicalement car le règne des cieux s'est approché ». Et c'est là qu'intervient le passage que nous allons lire ensemble. Si ça veut bien. Hop. Ah, une lueur. Voilà, c'est bon. Écoutons la parole de Dieu. Comme il marchait au bord de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, celui qu'on appelle Pierre, et André, son frère, qui jetait un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Venez à ma suite et je vous ferai pêcheurs d'humains. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. En allant plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui était dans leur bateau avec Zébédée, leur père, à réparer leurs filets. Il les appela aussitôt, ils laissèrent le bateau et leur père, et ils le suivirent. J'arrête ici ma lecture de la parole de Dieu. Jésus marche au bord de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. C'est un endroit magnifique. Vraiment, j'ai vécu comme un privilège de pouvoir aller là-bas. Et on se rend compte que c'est là que peu après, quand Matthieu le raconte en Matthieu 5, ce chapitre d'après, Jésus va prononcer son fameux sermon sur la montagne, au bord du lac là. Et ça se passe à Capharnaüm, c'est juste à côté de Nazareth où Jésus a grandi. Donc en fait, Jésus à ce moment-là est encore chez lui. Il se promène aux alentours de chez lui, c'est ça qui se passe. Et en même temps, il est déjà en route vers d'autres horizons. Il y a eu son baptême, il a commencé son ministère, et à l'intérieur, il est en route. Il commence à enseigner. Il est en route pour la mission que le Père lui a confiée, mais il ne veut pas la vivre seul. Il va appeler des gens à le suivre. Donc. Et voilà ces quelques hommes, ceux-là même donc à qui qu'il enverra faire d'autres disciples après, ceux à qui il va confier son Église quand il partira, et voilà qu'il les appelle. Et c'est Jésus qui les choisit. On a l'impression que ça se fait au hasard. Il marche, il les voit, il s'approche. Dans tous les récits de vocation, enfin dans beaucoup de récits de vocation, chez Matthieu, ça se passe comme ça. Jésus voit, il appelle et la personne répond. Ou pas. Mais dans ce regard de Jésus, il y a un choix. Il y a un mystère aussi. Et puis on voit qu'il choisit en deux temps. Il appelle deux fratries, vous avez vu ? D'abord Simon et André, deux frères, et puis ensuite Jacques et Jean, deux autres frères. Avec cet appel mystérieux, on va y revenir, je vous ferai pêcheurs d'humains. et tous le suivent. Moi, ce qui me frappe, c'est l'immédiateté de la réponse. Et avec une assistance aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Aussitôt, ils laissèrent le bateau et leur père et le suivirent. Alors, l'évangile de Jean laisse entendre que ces jeunes hommes traînaient déjà dans l'entourage de Jésus. Ils étaient en lien avec Jean-Baptiste et qu'ils avaient déjà entendu, ils savaient un peu qui était Jésus. Ils avaient, en plus, c'est une petite ville, c'est des petits endroits. Jésus n'est pas un inconnu, donc il y a un relationnel qui précède. Mais voilà le temps de prendre une décision, de faire un pas d'engagement. Jésus les appelle, ils laissent tout et ils le suivent. Aussitôt, ils laissèrent le bateau et leur père et ils le suivirent. Et en insistant sur cette décision, cette immédiateté, ce mouvement-là, Matthieu est en train de nous dire quelque chose de ce que c'est la foi et de ce que c'est, du coup, être un disciple et suivre Jésus. Alors, je vous propose de méditer dimanche prochain aussi cette question de suivre Jésus. C'est un sujet énorme, donc on va l'aborder sur ce passage et puis on verra encore autre chose la semaine prochaine, parce qu'il y a beaucoup de choses. Mais je crois que ce texte nous dit plusieurs affirmations importantes. D'abord, être disciple, c'est s'attacher à la personne de Jésus, ce qui entraîne l'obéissance à ce qu'il nous dit. C'est un attachement. C'est ça qui se passe. Il y a un attachement à Jésus qui est premier, c'est ça qu'il y a d'abord, et puis qui est assez mystérieux. En fait, ces hommes-là, ils suivent Jésus parce que c'est Jésus. Il y a une rencontre, il y a quelque chose. Il y a eu une espèce de confiance, quelque chose qui s'est passé dans le cœur. Et encore une fois, dans les autres récits de vocation, on retrouve ça. Jésus s'approche, il appelle, il y a quelque chose. Et pour ceux qui ont vu la série The Chosen, je trouve que l'appel de Matthieu, le péager, est bien rendu là-dessus. On voit vraiment Matthieu qui est saisi par quelque chose, il hésite, et puis il laisse en plan son stand, là, son guichet, et il suit Jésus, quoi. Parce que c'est lui. Et j'aime bien cette formule que j'avais lue quelque part, « Jésus est irrésistible ». Pourquoi ? Alors évidemment, à cause de son enseignement, ça c'est clair, mais au-delà, dans sa personne même. Et Daniel Bourguet, qui écrit des très très beaux livres et qui vient de nous quitter, il voit dans ce côté, dans cet attrait, la conséquence de son amour. Un amour puissant qui émane de lui. Et Daniel écrit, c'est cet indicible amour, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le mettre des mots, qui remplit le regard et la parole de Jésus et qui se répercute dans la réponse des disciples. Leur obéissance est si étonnante est tout simplement le fruit de l'amour que Jésus a pour eux. Un amour si puissant qu'ils ne peuvent pas y résister, ni même le discuter. Ils peuvent seulement s'y ouvrir, l'accueillir et le laisser travailler en eux pour produire le magnifique fruit de l'obéissance. Alors, on pourrait s'arrêter là-dessus longtemps, mais goûter ces mots, mais je crois qu'il y a quelque chose qui m'a touché là-dedans. C'est vrai qu'on parle beaucoup de l'amour de Dieu, de l'amour de Jésus, mais je crois que c'est initialement, cette question d'être disciple, ça nous ramène à l'accueil de l'amour de Dieu en Jésus. Chercher Dieu là, le chercher là, même si on ne le ressent pas. Aller à sa rencontre, s'attacher à lui. Qui est-il ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Qui est cet homme ? Qui est cet homme ? Et l'obéissance, faire ce que Jésus dit, ça, c'est pas une. Je vais y revenir, c'est pas un commandement froid, c'est une conséquence. Parce qu'on aime, on a envie de faire quelque chose qui soit en accord, une réponse. Donc, un disciple, c'est quelqu'un qui s'attache à Jésus. C'est pas quelqu'un qui fait la religion. C'est quelqu'un qui cherche Dieu dans la personne de Jésus. Et puis, et notre affirmation, voilà Jésus qui appelle « Venez à ma suite » et les quatre jeunes obéissent. Deuxième point, être disciple, c'est obéir à ce que Jésus nous demande par amour pour lui. Et ça a amené Dietrich Bonhoeffer, qui était un théologien, un pasteur, je vais dire un mot sur lui, là, à formuler cette affirmation extrêmement carrée. Il dit « Seul celui qui obéit à Jésus croit ». On peut dire c'est raide. Mais il faut comprendre aussi que Dietrich Bonhoeffer était pasteur en Allemagne au moment où Hitler a été amené au pouvoir. Et il s'est opposé fermement à lui. Il fait partie des pasteurs qui ont refusé de faire des compromis avec l'État, avec le Reich, avec le gouvernement nazi, par qui demandait aux églises de continuer à exercer leur culte, mais en alignant leur enseignement sur la doctrine nazie. Et Dietrich Bonhoeffer s'est clairement opposé à ça. Et quand il écrit « Seul celui qui est obéissant, seul celui qui écrit, ce qui obéit à Jésus, pardon, croit », il a face à lui des chrétiens qui ont choisi de ne plus obéir à Christ pour faire des compromis, notamment avec les idées racistes, avec les idées de supériorité des uns par rapport aux autres, qui s'opposent complètement et de frontalement avec le message de l'Évangile. Ces personnes croient en Dieu et elles font ce qu'elles peuvent. Elles ont peur. Et je sais pas, on va pas sortir encore chaque fois la chanson de Goldman, qu'est-ce que j'aurais fait à cette époque-là, mais Bonhoeffer ne les juge pas pour ce qu'ils font. Par contre, il les invite à revenir à la base, suivre Jésus. Et suivre Jésus, c'est lui obéir, ne pas l'utiliser pour notre profit personnel, ne pas lui assigner une place secondaire ou une place que nous avons taillée pour lui, mais le laisser être pleinement celui qu'il est, c'est-à-dire Dieu, celui qui est devant nous. Pas celui à qui on dit « mets-toi là ». Et je crois que c'est encore une tentation que... Alors évidemment, j'ai déjà évoqué, c'est facile de voir chez les autres à la dérive. Alors je le fais un peu, parce que ça me travaille. Je sais qu'on... J'ai déjà évoqué cette tendance à faire de Jésus un objet au service de la politique. On voit ça aux États-Unis en ce moment, on la voit dans le monde entier, mais nous faisons tous cela à notre niveau, à un moment. Précéder Jésus et lui dire ce qu'il doit faire dans nos vies, au lieu de le suivre. Est-ce que je suis un disciple, c'est-à-dire quelqu'un qui choisit d'écouter le Christ et qui est prêt à se laisser amener là où lui veut, sans vraiment savoir où c'est, et quel que soit le coût. Parce que, c'est l'autre affirmation, suivre Jésus, ça coûte, on l'a chanté. Donc c'est vrai. Je te suivrai malgré le prix. Filet, bateau, rivage de Galilée, c'est tout leur univers familier que ces quatre hommes vont laisser pour suivre Jésus. Et puis leurs proches aussi. Moi, en tant que père, je suis très touché par l'image de Zébédée, ce père que ses fils plantent dans sa barque, qui se retrouve seul, et puis il les voit partir avec ce gars-là. Et certainement que derrière, il y a tout un projet de vie, il y a le deuil de tout, surtout là, dans cette culture-là, qui va reprendre la barque, qui va assurer la suite. Et j'ose croire que Dieu a pris soin aussi de lui. Pour en savoir plus, je vous invite à consulter l'excellente série de BD « Le voyage des pères ». Bon, je ne garantis pas la fidélité biblique, c'est assez génial. Il raconte justement l'histoire des pères, des disciples qui leur courent après pour essayer de les faire revenir. Et donc, ils arrivent systématiquement juste après les événements racontés dans la Bible. Et c'est assez intéressant parce que c'est un peu décalé, mais c'est très profond. Mais ce n'est pas dans la Bible. Là, en tout cas, voilà ces hommes... qui partent aussitôt, ils laissèrent le bateau et leur père, et ils le suivirent. Et derrière, et dans ces deux mots-là, et ces trois mots, et leur père, il y a énormément. Et ça peut résonner pour chacun d'entre nous. Parce que la foi, ça implique des détachements. Mais pas, encore une fois, des détachements qui seraient comme un prix qu'on paye, un prix d'entrée, un prix d'adhésion. Hein? Regarde Jésus, tout ce que j'ai abandonné pour te suivre, je mérite bien une place dans ton église. C'est Jésus qui appelle et il y a quelque chose qui change. Et ces hommes, et c'est peut-être l'idée moi, qui m'a le plus touché en méditant ce texte, ces hommes choisissent de mettre leur vie à la disposition de Jésus. C'est ça qu'ils font. Et c'est peut-être que c'est ça, être disciple, en fait. Voilà. Peut-être que c'est ça que ça veut dire suivre Jésus. Ils mettent leur vie à la disposition de Jésus. La voilà. Ce n'est pas Jésus qui est disponible pour eux, c'est eux qui se rendent disponibles. On est là. Mais s'ils le font, c'est parce qu'encore une fois, il y a cet amour qui appelle. Et on ne peut pas suivre et aimer si notre cœur est retenu par d'autres amours. On y reviendra. Je pense à ce jeune homme riche, le fameux jeune homme riche, qui lui aussi a envie de suivre Jésus, et Jésus l'appelle, suis-moi, et en fait il n'y arrive pas parce qu'il est trop. Son cœur, il aime aussi l'argent, mais derrière l'argent, il y a la sécurité. Et finalement, ces pêcheurs, on ne sait pas s'ils étaient pauvres, en tout cas ils sont modestes, ils laissent aussi leur sécurité, leur barque, leur univers. Pourquoi certains y parviennent et d'autres non? On ne sait pas, mais en tout cas ça nous ramène à nous. La vie chrétienne, ce n'est pas d'abord renoncer à des choses. J'insiste là-dessus. Mais je crois qu'en marchant derrière Jésus, nous allons plutôt changer de perspective. Et il y a des choses qui nous paraissent essentielles qui vont petit à petit se détacher de nous. Je ne sais pas si ça vous le fait, ça. J'ai vécu ça, j'ai une petite confidence devant ma femme. J'ai vécu ça souvent dans les projets d'achat. À certains moments, on se dit, tiens, on a besoin d'un nouveau lave-vaisselle et puis ça devient le truc, on ne peut pas s'en passer. Ça ne vous le fait pas, ça? Puis ça marche bien, le système est bien fait. Et puis au bout d'un moment, tu laisses tomber, puis au bout d'un moment, tu te dis, mais pourquoi je voulais un nouveau lave-vaisselle? Bon, alors évidemment, c'est prosaïque. Mais il y a quelque chose de ça. Le chemin intérieur nous amène à nous détacher. Est-ce que ma vie est à disposition de Jésus? Mais est-ce que justement, je sens chez lui, ou je crois qu'en lui, dans la relation avec lui, il y a quelque chose qui peut m'amener plus loin? Et ce plus loin, c'est quand même, il est mystérieux. C'est bon, je crois que c'est l'avant-dernier point. Parce que la première chose, j'ai l'impression, la première chose à laquelle ces hommes renoncent, c'est à maîtriser leur destin, à choisir leur destination. Parce qu'ils décident de suivre Jésus sur un projet quand même plutôt flou. Marchez derrière moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes et de femmes. Le contenu de la proposition, pour le moins, n'est pas très clair. Alors, nous, avec le recul, l'ensemble de la Bible, nous pouvons comprendre que pêcher des hommes et des femmes, ça va être partager avec eux l'amour de Dieu, partager la bonne nouvelle de l'amour de Dieu, partager l'évangile, etc. Ce qu'on comprend, c'est que Jésus les prend là où ils sont, il les amène pas brutalement ailleurs, il leur dit, vous êtes des pêcheurs, ok, vous allez rester des pêcheurs. Mais vous allez devenir autre chose. Et finalement, c'est peut-être ça, le projet, devenir. Mais devenir quelque chose de plus large. Eux, ils ont l'essentiel, encore une fois, cet attachement à Jésus. Et c'est ça qui compte. Mais ils partent sans tout comprendre. Et d'ailleurs, les évangiles insistent bien sur le fait qu'ils ne comprennent pas jusqu'à la fin, quelque part. Même dans le texte que Marc a lu la dernière fois, dans Matthieu 28, alors que Jésus ressuscité est là en gloire, quelques-uns eurent des doutes. Ça signifie que tout comprendre, avoir une bonne théologie, avoir répondu à toutes ces questions, ce n'est pas un préalable pour suivre Jésus. Les réponses viennent sur le chemin. Le préalable, c'est la confiance. C'est le pas de la confiance. Mais je crois que ça dit quelque chose de la force de la rencontre. Et dans la rencontre, cette puissance de vie qu'on perçoit, peut-être on la voit chez les autres, on se dit, mais là, Ce chrétien, il y a quelque chose que je voudrais avoir. Peut-être on la voit dans les récits de la Bible. Mais c'est le devenir, sortir de ce que nous sommes, de nos enfermements, de ce qui est lourd, d'une vie qui se cherche, d'une vie tellement étroite qu'on cherche, et d'une vie pardon, très étroite qu'on cherche pourtant à remplir avec beaucoup d'activités, de nourriture, de biens matériels, etc. Sortir de cette vie et avec Jésus, entrer peu à peu dans une vie que Dieu remplit. De son amour, de sa présence. Et qu'il remplit en l'élargissant. C'est un peu paradoxal, hein. C'est plus facile de remplir un petit espace. Et c'est ce que vont vivre ces modestes pêcheurs. Ils vont être élargis dans leur façon de voir. Ils ont vu du monde plus que personne à Capharnaüm, quoi. C'est incroyable ce qu'ils auront visité. Pourtant, à pied, je pense qu'en une semaine, on fait le tour de... Mais intérieurement, leur voyage est très long. Vous voyez, je crois, suivre Jésus, c'est vivre pleinement et intensément chaque instant avec Dieu, c'est se déployer dans ce service, dans la découverte de qui on est, à partir de ce qu'on est. Vous êtes pécheur ? Très bien, c'est magnifique, je ne vais pas vous transformer en autre chose. Mais vous allez devenir des pécheurs plus larges. Et vous allez travailler avec moi à la guérison du monde, à l'établissement du royaume. Alors là, c'est vertigineux. Et parce que c'est vertigineux, eh ben, on peut rester paralysé, hein, se dire, oulala. Moi, je suis venu ce matin en me disant, j'ai besoin de me faire du bien. Et là, j'ai l'impression qu'il faut que je laisse ma barque et tout le monde et partir. Mais où ? Qu'est-ce que ça signifie ? Je crois que, encore une fois, Dieu, c'est un guide patient et doux. Et ce qu'il nous invite, c'est à avancer un pas après l'autre, à notre niveau. Un pas à la fois. Jusque-là, nous avons peut-être cru que... Nous avons cru comme si Dieu était une ressource à notre disposition. Et il nous dit maintenant... Mets-toi à ma disposition. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ben, ça commence par des petites choses, peut-être par un chemin, un changement de désir, peut-être d'essai. Et j'ai encore une belle citation, j'ai plein de belles citations ce matin. C'est Henri Nouwen qui écrit dans un livre qui s'appelle justement « Suivre Jésus ».« Suivre Jésus ne requiert pas de grands gestes dramatiques. » C'est-à-dire « Je suis là, je... » Le secret de la vie spirituelle, c'est qu'on connaît déjà les petits pas à faire, même si on ne connaît pas les grands. Il suffit d'avancer un pas à la fois. Exemple concret, cesser de médire de quelqu'un. Personne ne le remarque, mais c'est un premier pas. Et puis on lui sourit, et puis on l'invite, et on se retrouve amis au bout d'un long chemin de petits pas. Le premier pas est d'écouter. Le second est de sortir de moi et de mes peurs. Et à chaque décision, on peut se demander « Est-ce que j'agis par peur ou par confiance ?» Toujours choisir l'amour. Jésus ne demande pas de sauter, mais d'avancer prudemment, pas à pas. Toujours choisir l'amour. Et Nouwen conclut, Jésus est celui qui promet la vie en abondance. Son invitation n'est pas de rendre la vie difficile, mais de nous orienter vers cette plénitude. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Alors, une des questions qui me vient à ce moment-là, c'est OK, concrètement, que faire ? Sur quoi obéir ? Quel pas ? Alors, on continuera à méditer là-dessus, mais je crois qu'on peut s'arrêter là ce matin, se dire finalement, quel est ce pas ? Pour moi, puisque nous connaissons déjà le pas à faire, il est là, dans notre vie, à notre niveau. Vous êtes pécheur. Continuez à pécher, mais avec un petit plus, quelque chose en plus, quelque chose d'orienté différemment. Qu'est-ce que c'est ? On peut le demander à Dieu. Je vous propose de nous arrêter là pour prendre un temps de prière dans le silence. Et on peut poser cette question à Dieu, Seigneur. Là, maintenant, aujourd'hui, quel est ce pas que je peux faire pour avancer davantage avec toi, m'attacher plus à toi, te laisser plus de place dans ma vie ?